Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La fin d'une époque à Saint-Saulve, près de Valenciennes, après la fermeture de la scierie Ascoval en 2017, la ville va dire adieu à l'usine Vallourec. Moins de 2 ans après un plan social, le site de fabrication de tubes en acier va fermer ses portes à la fin de l'année. Pas assez rentable. Il y a 10 ans, l'usine comptait 1000 salariés. Pour la centaine encore en poste, la nouvelle est très très dure à digérer. Le reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Lionel Gougelot.
J'aurais pas pensé finir comme ça au bout de 27 ans. Ça fait mal.
La gorge nouée par l'émotion, Philippe accuse le coup. L'annonce de la fermeture de cette tuberie, c'est l'épilogue de plusieurs années d'un long déclin, constate fataliste son collègue Frédéric.
Vous voyez que ça fait des années qu'il y a des restructurations et puis nous on voit l'activité qui baisse d'année en année et à un moment donné vous vous dites voilà, c'est une fatalité quoi.
Une centaine de salariés sur le carreau, dépendant de la production des usines allemandes fermées sans repreneur, le site de Saint-Saulve paye le plus lourd tribut en France des décisions de Vallourec.
La faute que les grands patrons s'en vont dans les pays étrangers pour gagner plus d'argent et puis nous ici en France, en Europe, nous laisser en bas quoi. Mais moi je pensais finir ma carrière quand même à Vallourec quoi. Et moi l'industrie je veux plus entendre parler.
Le groupe assure vouloir trouver des solutions de reclassement ou de départ anticipé pour les salariés, mais Michael Tison, délégué CFDT, attend lui un plan digne de ce nom.
On n'arrivera plus à sauver nos emplois, ça on le sait très bien, c'est fini, c'est mort. Maintenant ce qui compte c'est que les gens partent avec des mesures décentes quoi, des mesures d'accompagnement et l'ensemble des salariés est prêt à faire l'effort de continuer la production jusqu'à la fin.
De Vallourec en France, il ne restera plus que l'usine d'Aulnoy-Aymeries près de Maubeuge et ses 900 salariés, un fief historique du groupe, sans garantie pour l'avenir, selon les élus locaux et les syndicats. À Saint-Saulve, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et notez que 2 usines Vallourec vont également fermer en Allemagne. Une partie de l'activité sera transférée au Brésil. Au total, 2950 postes seront supprimés à travers le monde.
Voilà, si Vallourec va mal, c'est parce que le secteur pétrolier n'explore plus, ne fore plus pour le pétrole, parce que c'est ça que fait Vallourec. Ce sont des tubes qui servent à l'exploration pétrolière. Alors voilà évidemment qui rend encore un peu plus délicat le choix du futur ministre du Travail ou encore celui de l'Industrie.
Oui, Elisabeth Borne planche toujours sur la composition de son nouveau gouvernement. La première ministre devrait se décider avant demain, date évoquée pour le premier conseil des ministres version Borne. Les tractations vont bon train. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Jacques, mardi, Elisabeth Borne a rencontré les députés de la majorité et le chef de l'État. Hier, elle a encore enchaîné les rendez-vous.
Oui, Elisabeth Borne multiplie les rendez-vous. Elle a reçu hier à Matignon 2 anciens premiers ministres, Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve. Elle s'est entretenue également avec les poids lourds de la majorité, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, le patron du Modem, François Bayrou, ainsi que Christophe Castaner, le président du groupe des députés La République En Marche, Stanislas Guérini, le délégué général du parti, et Elisabeth Borne a eu au téléphone le président du Sénat, le républicain Gérard Larcher. Officiellement, je cite Matignon, la première ministre poursuit le travail d'élaboration de l'équipe gouvernementale. Alors rien ne filtre de ces échanges, mais l'on imagine aisément la teneur de ces conversations, car la composition du prochain gouvernement fait l'objet d'intenses tractations. Il s'agit pour Elisabeth Borne, au-delà des compétences des personnalités politiques sélectionnées, de trouver un équilibre, montrer dès maintenant qu'elle écoute, qu'elle prend en compte les remarques de chacun de ses interlocuteurs. Démarche sincère ou pas, Elisabeth Borne a aussi échangé avec les partenaires sociaux et les présidents des associations d'élus, mais elle n'oublie pas la campagne des législatives. Un de ses conseillers confirme qu'elle se rendra bien en fin de semaine dans sa circonscription du Calvados.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
8h05, elle couvre 31% du territoire français. Ce matin, Europe 1, en partenariat avec la rédaction de l'hebdomadaire Le Pèlerin, a choisi de vous parler de nos forêts.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre.
Georges Brassens auprès de son arbre en 1955. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de nos arbres en 2022? Trésors écologiques fragiles, menacés par le réchauffement climatique, ils sont aussi des ressources énergétiques qui valent leur pesant d'or. Alors certains propriétaires de forêts en quête de rendement n'hésitent pas à pratiquer ce qu'on appelle la coupe rase, c'est-à-dire la suppression entière d'une parcelle pour la remplacer par un seul type d'arbre au détriment de la bonne santé de la forêt. Près du Mans, dans la Sarthe, des citoyens ont donné l'alerte. Le reportage de Mathieu Limongi.
Une départementale en plein milieu de la Sarthe, autour une forêt verdoyante qui masque le soleil. Mais quelques kilomètres plus loin, les arbres ont laissé place à un paysage désertique.
Mais ça n'a pas repoussé depuis. Le sol est jauni. On va tourner, on va aller voir.
Sylvain Agerand est ingénieur forestier et coordinateur des campagnes pour Canopée, une association qui milite pour une sylviculture plus durable.
Alors ici, on est vraiment sur une situation qui est très pédagogique. On est dans une forêt d'un des principaux représentants de la filière bois. Tout a été rasé. Il n'y a plus un seul arbre sur plusieurs dizaines d'hectares. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les souches des arbres ont été déracinées. Tout l'écosystème est cassé.
L'arbre le plus souvent replanté, c'est le Douglas, un résineux qui pousse vite, facile à travailler et donc très prisé des industriels.
Quand vous remplacez une forêt diversifiée par une monoculture de Douglas, vous aggravez le changement climatique. Quand vous rasez une forêt, vous libérez d'un seul coup tout le carbone qui était stocké dans les arbres et dans le sol. Et le pari qui est fait, c'est de dire c'est pas grave, on va replanter, les arbres vont repousser. Sauf que le deuxième problème, c'est que ces jeunes arbres, ils sont mis en plein cagnard et bien souvent, ils meurent.
Et quand ces arbres meurent, certaines parcelles devenues non rentables sont même parfois abandonnées par leurs propriétaires.
Mathieu Limongi.
Eux aussi tirent la sonnette d'alarme alors que les beaux jours reviennent. Les restaurateurs manquent de main-d'œuvre.
200 000 postes seraient à pourvoir en France. Le métier n'attire plus et il n'y a pas que les cafés ou les brasseries qui sont touchés. Même dans la haute gastronomie, on peine à recruter. À Marseille, le reportage de Stéphane Burgat.
Une vue imprenable sur le Vieux-Port et un chef étoilé, ça ne suffit plus à faire le plein, déplore Ludovic Turac aux cuisines d'une table au sud.
Non, ça suffit pas aujourd'hui. Alors, j'ai revu tous les salaires à la hausse. Avant, je faisais 11 services par semaine et maintenant, je n'en fais plus que 10. Je me suis assis sur un service par souhait d'améliorer la qualité de vie de mes employés. Du coup, ils ont 2 jours de repos consécutifs.
Et des sueurs froides pour Jean-Philippe Carmona, directeur de Victory Intérim à l'approche de l'été et des grands événements comme le Festival de Cannes. Il n'est toujours pas en mesure de satisfaire tous ses clients.
Très, très compliqué. Je peux vous citer un palace marseillais où il manque à peu près 50 personnes en staff. Oui, on s'arrache les cheveux, on ne peut plus regarder vers le lycée hôtelier en général. Forcément, on est obligé d'aller le chercher ailleurs.
Effectivement, la solution passe peut-être par la formation d'employés non qualifiés comme Alexis Sarrou, 18 ans, lycéen.
J'ai plus jamais fait d'études d'hôtellerie. J'étais formé petit à petit, des cocktails, etc. La restauration, je fais ça vraiment à côté de façon complémentaire.
Et dans le secteur de la restauration haut de gamme, serveur ou directeur, 250 postes sont à pourvoir dans la région. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Aux États-Unis, ce lapsus incroyable devant la presse de l'ancien président George W. Bush. En 2003, il avait attaqué l'Irak. 19 ans plus tard, ça se mélange un peu quand il parle de l'Ukraine. Écoutez.
La décision d'un seul homme de lancer une invasion absolument injustifiée et brutale de l'Irak. Enfin, je veux dire de l'Ukraine. Bon bref, j'ai 75 ans.
Effectivement, bon, rire un peu léger pour un sous-entendu évidemment beaucoup plus lourd.
Hein. Oui, évidemment. Alors on part sur la croisette maintenant. Le Festival de Cannes, ça va nous faire du bien. Il était en ébullition hier pour la venue de Tom Cruise. 30 ans qu'il n'était pas venu, alors forcément, on a mis les petits plats dans les grands. Projection exceptionnelle de son dernier film Top Gun Maverick, la suite d'un film culte avec un acteur qui a marqué des générations de cinéphiles. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Cannes pour Europe 1. Vous avez eu cette chance hier de voir Tom Cruise monter les marches. J'imagine qu'il manque déjà à Cannes ce matin.
Et oui, le jour se lève sur Cannes sans Tom Cruise, qui a été généreux hier avec ses fans. D'abord, il a pris le temps de les saluer sur le tapis rouge, de signer des autographes. Il a été chaleureux.
Ça fait bizarre de voir sa star en vrai, enfin, donc voilà, très ému. Voilà.
C'est vraiment un événement et il est génial, il est tellement avenant et ouais, hâte de voir le film.
Oh là là, Tom Cruise, c'est vraiment mon acteur préféré. Ouais, puis c'est un bel homme.
Fanny, c'était une journée à l'image d'un film, il y avait de l'émotion. Allez, on peut le dire, Tom Cruise avait les yeux brillants lors de sa masterclass qui s'est déroulée un peu plus tôt dans l'après-midi. Il est revenu sur 40 ans de carrière et son goût du risque qui ne le quitte pas depuis l'enfance.
Je devais avoir 4 ans et j'avais une sorte de poupée avec un parachute. J'ai voulu faire pareil, j'ai pris les draps de mon lit, je suis monté sur le toit, et vous savez, c'est au moment de sauter que l'on se dit « ça ne va pas marcher, je vais mourir en fait ».
Il y avait aussi de l'action avec ce spectacle orchestré par la Patrouille de France qui a survolé le Palais des Festivals, on en parlait dans le journal de 7h30, et puis un scénario virevoltant dans ce film Tom Cruise à Cannes, puisque, grosse surprise, une palme d'or d'honneur lui a été décernée juste avant la projection de Top Gun Maverick par Pierre Lescure, le président du festival.
Tom Cruise, comme je serai fier de vous décerner cette palme d'or d'honneur.
Et puis une bande-son, on a entendu sur les marches le thème mythique de Top Gun, des applaudissements constants. Et alors en fin de soirée, Cannes avait mis le paquet, un feu d'artifice et le retentissement des sirènes de bateaux. À Alors rassurez-vous, Fanny, Tom Cruise n'est pas complètement absent du festival. Nouvelle projection de son film Top Gun Maverick dans 2 heures. Mais pour trouver des places, mission presque impossible.
J'imagine. magnifique jeu de mots. Merci Marie Jiquel, ouais. Envoyée spéciale au 75e Festival de Cannes.
Top Gun Maverick, c'est l'histoire d'une mission sans retour. Il a l'air trop bien. Voilà.
Ah ben voilà.
Merci beaucoup Fanny, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, au micro de Sonia Mabrouk, le sénateur Philippe Bas. À tout de suite.